de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Sejurita ke bonsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. L'Indonésie exprime ses condoléances pour le tremblement de terre en Afghanistan qui a tué 2400 personnes. Bamsud a demandé au ministère indonésien des Affaires étrangères de coordonner le tremblement de terre en Afghanistan avec l'ambassade d'Indonésie et PMI. Le sommet du forum AIS est un élan pour faire avancer l'économie bleue. Le ministère de l'Environnement et des Forêts estime que l'économie bleue renforce les écosystèmes marins. 21 délégués du forum AIS sont arrivés à Bali. L'Indonésie et le Brésil explorent les opportunités de renforcer la coopération économique. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien a exprimé ses condoléances pour le tremblement de terre qui a frappé l'Afghanistan. La catastrophe a tué plus de 2400 personnes. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, via son site officiel, a déclaré lundi 9 octobre 2023, que le gouvernement et le peuple indonésien ont exprimé leurs plus sincères condoléances aux victimes de la catastrophe et à leurs proches pour le tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a secoué la province d'Herat en Afghanistan samedi 7 octobre 2023, heure locale. Le porte-parole du ministère taliban des catastrophes, Janan Sayek, a déclaré que le nombre de blessés dépassait les 2000 personnes. Janan Sayek a déclaré que le tremblement de terre samedi a détruit environ 1320 maisons. Actuellement, les équipes de secours ont toujours déployé dans les zones touchées par le séisme. Pendant ce temps, le chef du bureau des talibans au Qatar, Souhail Shahin, a déclaré qu'actuellement, le peuple afghan avait vraiment besoin d'aide en matière de nourriture, de boissons, de médicaments, de vêtements et de tentes. Le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, Bambang Susatyo, a demandé au ministère indonésien des Affaires étrangères de se coordonner avec l'ambassade de la République d'Indonésie, KBRI à Kaboul, et la Croix-Rouge indonésienne, PMI, suite au tremblement de terre qui a secoué l'Afghanistan samedi 7 octobre. Selon Bambang, cette coordination vise à continuer à mettre à jour l'évolution de la condition des citoyens indonésiens, WNI, en Afghanistan. Bambang Susatyo dans sa déclaration à Jakarta a également demandé langue au ministère indonésien des Affaires étrangères, prendre média que l'ambassade d'Indonésie à Kaboul, de fournir une aide humanitaire pour faire face à l'impact du séisme de magnitude 6,2 en Afghanistan, soit sous forme de nourriture, de boissons, de médicaments, de vêtements et d'autres produits de première nécessité dans les camps de réfugiés ou toute autre assistance nécessaire. En outre, Bambang a demandé et soutenu PMI pour l'aider dans les opérations de recherche et de sauvetage qui sont actuellement toujours en cours, car les victimes du tremblement de terre dans la zone où la catastrophe s'est produite n'ont pas encore été entièrement identifiées. Le sommet du Forum AIS 2023 est en élan pour mobiliser le potentiel de l'économie bleue pour la reprise et la transformation économique qui mettent l'accent sur la durabilité environnementale. Les bénéfices ne se feront peut-être pas sentir immédiatement, mais dans les 10 à 15 prochaines années, cela apportera une réelle contribution au monde. C'est ce qu'a déclaré lundi le député chargé du tourisme et de l'économie créative du ministère de l'Ordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Odo Manuhutu, en marge du sommet du Forum AIS 2023 à Nusa Dua, la résidence de Mbadung, Bali. Selon lui, les États archipélagiques et insulaires doivent développer des solutions intelligentes et innovantes basées sur la nature pour soutenir l'économie bleue. Nous espérons que le Forum des États archipélagiques et insulaires pourrait favoriser une collaboration solide dans les efforts visant à surmonter les défis mondiaux. Par ailleurs, Sora Lokita, assistante adjointe à la délimitation des zones maritimes et des zones frontalières, au ministère de coordination des affaires maritimes et de la pêche a ajouté que le sommet du Forum AIS 2023 serait un forum d'assistance mutuelle bénéfique. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, estime que la mise en œuvre de l'économie bleue peut renforcer les écosystèmes marins car elle repose sur une base durable. Les politiques dans le domaine de l'économie bleue doivent être poursuivies avec des mesures concrètes, notamment le renforcement des capacités, la réglementation et la technologie. Cette évaluation a été transmise par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, en marge du Forum de dialogue de l'économie bleue de la série du Forum AIS à Nusa Dua, la résidence de Badung, Bali, lundi. Selon Siti Nurbaya, d'autres mesures doivent être prises, notamment la prise en compte de la croissance économique, des opportunités d'emploi, d'un climat résilient et d'une durable écologique et environnementale intégrée. Selon elle, l'une des zones côtières qui soutiennent l'économie bleue est l'écosystème des mangroves. Actuellement, plus de 100 millions de personnes dans le monde vivent à proximité des forêts de mangroves. Pendant ce temps, dans les pays d'Asie, dont l'Indonésie, la majeure partie de la population dépend des ressources des mangroves et les mangroves ont une valeur élevée en carbone bleu dans le cadre d'une stratégie de développement national à faible émission de carbone. Au total, 21 dirigeants de la délégation du sommet du Forum AIS 2023 sont arrivés à l'aéroport international I Gusti Ngurah Rai, Bali, pour assister à la première réunion des pays archipélagiques et insulaires du monde à Nusa Dua, la résidence de Badung, du 10 au 11 octobre 2023. Le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère de la communication et de l'informatique, Ousmane Kansong, en marge du Forum AIS à Nusa Dua, Badung, Bali, a déclaré lundi qu'il y avait 33 délégués et 4 organisations internationales. Sur la base des données du secrétariat du Forum AIS, 19 dirigeants des pays insulaires sont arrivés, dont Bahreïn, les îles Marshall, les Maldives, Malte, Sainte-Lucie, le Japon, l'Angleterre, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Chypre, Fidji, Madagascar, la Micronésie, le Suriname et Samoa. Les organisations internationales attendues comprennent le Forum des îles du Pacifique, PIF, et le Melanesian Spearhead Group. Les chefs de la délégation devraient assister au sommet du Forum AIS 2023 au centre du congrès de Nusa Dua, Bali, qui sera inauguré par le président Joko Widodo le 11 octobre 2023. L'Indonésie et le Brésil explorent les opportunités de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays dans un certain nombre de domaines, notamment la sécurité énergétique alimentaire et les investissements dans l'élevage de bétail national. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, ont tenu lundi une réunion bilatérale à Jakarta. Au cours de leur réunion, la ministre des Affaires étrangères Retno a déclaré que le Brésil était le plus grand partenaire commercial de l'Indonésie et le plus grand investisseur latino-américain en Indonésie. Lors d'une conférence de presse conjointe après la réunion, la ministre Retno a mentionné un certain nombre de propositions soumises par l'Indonésie pour renforcer la coopération économique entre les deux pays, notamment en encourageant le Brésil à ouvrir l'accès au marché des produits de la pêche indonésienne et à développer conjointement la production de vaccins contre les maladies animales. La ministre Retno espère également que le Brésil collaborera dans le domaine des énergies renouvelables, y compris le développement de l'éthanol et la plantation de canne à sucre, ainsi qu'une collaboration en matière de recherche pour augmenter la production de biocarburants. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Vieira, a déclaré que l'Indonésie et le Brésil étaient convenus de relancer le partenariat stratégique entre les deux pays en adoptant un plan d'action qui sera mis en œuvre au cours des trois prochaines années. C'est l'étape, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. C'est Zurita pour la rubrique suivante. Voici donc le commentaire dont le titre est « Le ministre du Tourisme cible 14 millions de visites touristiques étrangères en 2024 ». Le secteur du tourisme est l'un des piliers de l'économie indonésienne et un important contributeur en devises. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, dans son rapport sur les tendances et politiques du tourisme de 2022, a déclaré qu'en 2019, le secteur de tourisme contribuait à 5,0% du revenu intérieur brut PIB de l'Indonésie. Cependant, l'impact de la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une baisse de la contribution du tourisme au PIB de 56%, soit à seulement 2,2% de l'économie totale. Après la pandémie, le tourisme indonésien continue d'améliorer et d'augmenter la qualité du confort des destinations touristiques et l'accès au transport afin que les visites touristiques nationales et étrangères augmentent. Le ministère du Tourisme et de la Communauté Créative cible le nombre de touristes étrangers visitant l'Indonésie atteigne 14 millions en 2024 contre 8,5 millions de visites précédentes en 2023. Cela a été transmis par le ministre du Tourisme et de la Communauté Créative, Sandiaga Salahuddin Uno, dans un bref hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta lundi 9 octobre. Le ministre Sandiaga espère que cet objectif pourra être soutenu par des vols de cake supplémentaires et la reprise du tourisme dans l'ensemble de l'Indonésie. Il a également déclaré que sa partie se concentrerait sur l'Australie et l'Inde en tant que pays potentiel susceptible d'attirer un grand nombre de touristes. En dehors de cela, le ministère du Tourisme et de la Communauté Créative cible également d'autres pays comme la Chine, la Malaisie et Singapour. Ces pays sont en effet les principales cibles des touristes étrangers visitant l'Indonésie à en juger le nombre de visites en Indonésie. Selon les données de l'Agence centrale des statistiques, BPS, publiées le 1er août 2023, les visites en Indonésie en juin 2023 ont été dominées par les touristes étrangers en provenance de Singapour à 16,41%, de Malaisie à 15,88% et d'Australie à 12,47%. Pendant ce temps, selon la déclaration du ministre Sandiaga Uno d'août 2023, le nombre de touristes indiens a dépassé celui de la Chine. Il est enregistré que l'Inde occupe la quatrième position avec le plus grand nombre de touristes en Indonésie, soit 6,48%. La Chine occupe la cinquième position avec une contribution de 5,88%. On sait que la réalisation des visites touristiques étrangères pour la période janvier-août 2023 a atteint 7,44 millions de visites, soit a dépassé l'objectif fixé au début d'année, soit 7,4 millions. Au milieu de l'année, le gouvernement a révisé l'objectif d'arrivée des touristes étrangers à 8,5 millions de visites, soit 1,1 million de visites de plus que l'objectif de 7,4 millions fixé au début de l'année. L'objectif des visites touristiques étrangères continue d'être révisé et augmenté, étant donné que le nombre de visites touristiques étrangères continue d'augmenter. Bien entendu, c'est une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme et pour l'économie indonésienne. Cependant, c'est aussi une tâche difficile car cela nécessite bien sûr d'améliorer la qualité du service dans divers secteurs touristiques, d'augmenter le nombre d'événements annuels et d'améliorer la qualité du tourisme pour les ressources humaines dans le secteur connexe. Il reste encore plusieurs mois au secteur touristique indonésien pour atteindre l'objectif d'arrivée des touristes étrangers en 2023. C'est Zerita, c'était le commentaire pour ce soir. Bonsoir, c'est Zerita, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 octobre 1986 en saisissement à Sikwe, El Salvador. Le 10 octobre 1986, un séisme de magnitude 5,7 a secoué El Salvador et causé de graves dégâts à la capitale San Salvador. Cité la Commission géologique américaine, le tremblement de terre survenu à 11h49 heure locale a été l'un des tremblements de terre les plus meurtrières de l'histoire. Au moins 1000 personnes sont mortes, 10 000 personnes ont été blessées et 200 000 personnes ont perdu leur logement à la suite du tremblement de terre. Le séisme a également détruit des bâtiments et provoqué des glissements de terrain à San Salvador. Passons maintenant à l'événement du 10 octobre 1992, la Journée mondiale de la santé mentale. La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée chaque année le 10 octobre. Cette journée a été créée par la Fédération mondiale pour la santé mentale, WFMH, en 1992. L'objectif est de sensibiliser et d'éduquer le public sur la santé mentale dans son ensemble. En dehors de cela, la Journée mondiale de la santé mentale vise également à accroître la sensibilisation aux divers aspects de la santé mentale. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 octobre 2013, Convention de Minamata. Le 10 octobre 2013, la Convention de Minamata sur le mercure a été signée à Kumamoto, au Japon. La Convention de Minamata sur le mercure est un traité international conçu pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et les rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. Le mercure et les composés du mercure sont connus pour avoir des effets nocifs sur les humains et d'autres organismes. La maladie de Minamata est une crise de santé publique courante causée par l'empoisonnement au mercure. À ce jour, 128 pays ont signé la convention. C'est Ritard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Everybody have secrets. Some know how to quietly hide it. Every day you call me being so cold, while I am only sad. I didn't want to wake up. Sometimes I wish to stay in my dreams.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée Ministère du Tourisme et de l'économie créative de la République d'Indonésie. Renforce le marché de l'Asie-Pacifique grâce au Pata Travel Mart, New Delhi. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative agence du tourisme et de l'économie créative, en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie à New Delhi, a participé à l'événement Pata Travel Mart, PTM, qui a eu lieu à New Delhi en Inde du 4 au 6 octobre 2023. Pata Travel Mart New Delhi fait partie de Pata Travel Mart India. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a expliqué que la participation de l'Indonésie au Pata Travel Mart New Delhi vise à renforcer l'Indonésie en tant que principale destination des touristes de l'Inde et des pays d'Asie-Pacifique en général. Citant le communiqué de presse du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative du 6 octobre, le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative a déclaré que la participation à des échanges touristiques tels que Pata Travel Mart devrait stimuler l'accélération des visites touristiques étrangères en Indonésie. Pata Travel Mart PTM, initié par la Pacific Asia Travel Association PATA, est un salon touristique de la région Asie-Pacifique qui rassemble vendeurs et clients business to business. Auparavant, le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a participé à des activités similaires dans plusieurs États indiens, à savoir Hyderabad, Mumbai et Ahmedabad en septembre 2023. Les pays de la région Asie-Pacifique constituent l'un des plus grands marchés contribuant aux visites touristiques étrangères en Indonésie. En août 2023, les visites touristiques étrangères de la région Asie-Pacifique ont atteint 5 308 942 personnes, soit environ 66,3% de l'objectif optimiste des touristes étrangers en 2023, soit 8,5 millions de visites. Pendant ce temps, la députée chargée du marketing au ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Nimade Ayu Martini, a déclaré que le Pata Travel Mart de cette année à New Delhi était très spécial car il s'est à nouveau tenu hors ligne, après être tenu en ligne il y a 3 ans en raison de la pandémie de COVID-19. Lors de la mise en œuvre du Pata Travel Mart 2023, le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a collaboré avec l'Association indonésienne des voyagistes entrants, IINTOA, pour sélectionner les participants. Les sociétés membres de l'IINTOA, qui sont des agents de voyage indonésiens, occupent le stand Wonderful Indonesia pour proposer des voyages organisés vers des destinations indonésiennes, dont 5 destinations super prioritaires. Nimade Ayu Martini a également déclaré qu'après avoir tenu Pata Travel Mart hors ligne depuis 2019, cette année est le bon moment pour montrer une fois de plus l'existence du tourisme indonésien dans la région Asie-Pacifique. Elle a ajouté que l'événement était un échange touristique inter-entreprise crucial pour la promotion du marché touristique indonésien. Nimade Ayu Martini espère que les participants pourront obtenir un maximum de résultats en établissant des contacts commerciaux avec les vendeurs du monde entier présents. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Bonne Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
dunia menatap, mendengar dan merasakan hidup. Dengannya hati ini pun bertanya, inikah cinta, inikah akhir pencarianku? Cinta bagai api tak berasa, ada kamu yang mau aku berantakan hatiku bingung. Ada dua cinta menerangi jalan kehidupanku. Aku bisa apa jika cintaku
Auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le Sate Kere de la ville de Solo, Java Sangkal. Le saté curé est l'un des plats typiques de la ville de Solo, donc la matière première est le tempeh gembus. Le tempeh gembus est du tempeh fabriqué à partir de restes de tofu fermenté ou de restes de fabrication du tofu. Cet repas est l'un des délices culinaires typiques de la ville de Solo et très populaire auprès du public. En fait, cette nourriture est devenue l'une des cibles des touristes extérieurs à Solo. Son nom unique s'avère être une histoire sur les luttes populaires à l'époque coloniale. Kere en japonais signifie pauvre ou sans argent. En effet, pendant l'occupation néerlandaise, le prix des ingrédients nécessaires à la fabrication du saté, comme la viande, est très élevé, de sorte que les autochtones ne pouvaient pas se le permettre. Grâce à sa créativité, il a remplacé la viande par l'ali de tofu comme ingrédient pour faire du saté, appelé le saté kere. Même si la matière première du saté kere est fabriquée à partir des restes de la fabrication du tofu, cette nourriture a un goût distinctif et délicieux, de sorte que le saté kere est désormais devenu un aliment incontournable pour les touristes venant de l'extérieur de la région de Solo. Le tempeh gembus est grillé puis arrosé de sauce aux arachides ou de sauce soja, faisant du saté kere un plat délicieux et savoureux, mais à un prix bon marché. Il serait dommage de voyager dans la ville de Solo, au centre de Java, sans goûter au saté kere qui se vend environ 20 000 roupies pour une portion contenant 10 brochettes de saté kere. Parce que les vendeurs de saté kere sont très difficiles à trouver dans d'autres régions. Chers amis, c'était Magazine Cultural de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sandiwara, kita berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati. Karena ku kan ada siap untuk mengganti hatimu yang luka. Akulah yang kau cari, mulailah melangkah. Jangan kau kembali, bahagia bersama sang pemeran pengganti. Hidup
Charge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger des radios République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Bonne écoute. Serge Ritard, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et des habitants du village de Hilisi Maitano, sur l'île de Nias. Le résident a décrit la partie omohada de la maison à Chris.
Ini rumah omohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya. Rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Beratapkan, beratapkan, ayant le toit. Rumbia, rumbia, de chaume. Rumah ini beratapkan rumbia. Rumah ini beratapkan rumbia. Cette maison a le toit de chaume. Tahan gempa, tahan gempa, résistant au tremblement de terre. Disokong. Disokong, soutenu. Tiang tiang kayu. Tiang tiang kayu, pilier de bois. Vertical. Vertical, vertical. Diagonal. Diagonal, diagonal. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Rumah ini beratapkan rumbia. Rumah ini beratapkan rumbia. Cette maison a un toit de chaume. Dans cet énoncé, il y a le mot beratapkan. Beratapkan, avoir le toit. Le mot beratapkan, beratapkan, avoir le toit, signifie beratap. Beratap, avoir un toit, vient du mot atap. Atap, toit. Pour décrire une partie de la maison, par exemple un toit, vous pouvez utiliser le mot beratapkan. Beratapkan, avoir le toit, qui est suivi d'un mot qui décrit le matériau utilisé, comme rumbia. Rumbia, chaume. Maintenant, il y a d'autres exemples. Allons écoutons d'autres exemples d'utilisation de mots pour décrire des parties de la maison. Berlantaikan, berlantaikan, a des sols. Rumah omohada berlantaikan kayu. Rumah omohada berlantaikan kayu. Maison d'omohada a du parquet. Berdindingkan, berdindingkan, a des murs. Rumah omohada berdindingkan kayu. Rumah omohada berdindingkan kayu. Maison d'omohada a des murs en bois. Sur je tard, la maison de Mohada n'utilise pas de clous, mais des piquets. On pense que cela rend Mohada résistant aux tremblements de terre. Chers amis, avant de terminer à apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Ini rumah Mohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya, rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33 de 5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Hai Bujang, chantée par Annie Laksmana. Cette chanson a été composée par Abdul Hamid. En malais, Bujang signifie jeune homme et femme ou homme et femme célibataire. Les paroles de cette chanson racontent que les jeunes hommes et femmes ne devraient pas abandonner facilement et continuer à essayer de conserver leur dignité. Bon, chers auditeurs, voici Hai Bujang de Annie Laksmana. Bonne écoute!
Bahwa mendalam
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.